Le journal, Sébastien Berriot.
Bonsoir. Dans l'actualité ce soir, Donald Trump qui condamne le racisme après les deux fusillades de ce week-end au Texas et dans l'Ohio. Mais le président américain refuse de faire le lien avec la législation sur les ventes d'armes. On sera aux États-Unis avec notre correspondant Grégory Phillips. Le Cachemire va perdre son autonomie et sera désormais entièrement administré par le gouvernement indien. Une décision de New Delhi qui provoque la colère du Pakistan. Islamabad évoque un acte illégal. On rejoindra Sébastien Farcy en Inde. En France, une mutation sanction pour le procureur de la République de Nice, Jean-Michel Prêtre, soupçonné pendant le mouvement des Gilets jaunes d'avoir menti pour ne pas contredire Emmanuel Macron. Il pourrait être muté à Lyon, nous dira Antoine Marette. Et puis les conditions de travail et les salaires, parfois misérables dans le secteur de l'hôtellerie. Illustration avec la grève des femmes de chambre de l'hôtel Ibis Batignolles à Paris. Émotion et prière en ce début de semaine aux États-Unis, au lendemain des deux fusillades de ce week-end qui ont fait 30 morts au Texas et dans l'Ohio. Des hommages publics sont organisés un petit peu partout dans le pays. Recueillement aussi de la part de Donald Trump, le président américain qui s'est exprimé cet après-midi dans une brève intervention très solennelle depuis la Maison-Blanche. Aucune nécessité, a dit Donald Trump, de renforcer la législation sur les ventes d'armes. En revanche, le chef de la Maison-Blanche est revenu sur le caractère raciste de l'une des deux fusillades qui visait des populations hispaniques près de la frontière avec le Mexique. Le président, on le sait, régulièrement critiqué pour sa rhétorique anti-immigrant, a cette fois complètement changé de discours en condamnant le suprémacisme blanc. C'était assez inattendu, hein, Grégory Phillips.
C'est sans doute le point qu'il faut retenir de cette adresse à la nation. Nous devons condamner la haine, le racisme et le suprémacisme blanc. C'est la première fois que Trump dit cela de manière aussi claire. Vous savez que le tireur d'El Paso avait effectivement publié sur le net un manifeste dénonçant ce qu'il appelle l'invasion du Texas par les hispaniques. Aujourd'hui, donc, Trump condamne ces théories suprémacistes et parle aussi de terrorisme intérieur aux États-Unis. Nous devons agir maintenant, trouver une solution bipartisane, dit encore le président. Mais c'est sans doute un vœu pieux parce que vous savez qu'en février, par exemple, la Chambre des représentants à majorité démocrate avait voté une loi proposant de renforcer le contrôle des antécédents. Mais le texte n'a jamais passé la barre du Sénat à majorité républicaine.
Grégory Phillips, correspondant de France Culture aux États-Unis. En Égypte, les autorités ont d'abord évoqué un accident de la route avant de parler d'un acte terroriste. Une voiture chargé d'explosifs est entré en collision avec plusieurs autres véhicules au Caire, faisant au moins 20 morts. Attaque attribuée par les autorités à une organisation proche des frères musulmans. En Libye, ce sont 42 civils qui ont trouvé la mort ce matin dans une frappe aérienne dans une ville du sud du pays. Le gouvernement d'Union nationale, basé à Tripoli, met en cause les forces du maréchal Haftar, l'homme fort qui contrôle toute la partie est de la Libye. Et puis en Syrie, après seulement 4 jours de trêve, le régime Assad a repris ce lundi ses frappes contre la région d'Idleb, dominée par les djihadistes. Les aviations syriennes et russes ont mené des raids sur plusieurs villes, provoquant la fuite de la population. À plusieurs reprises ces dernières années, l'Inde et le Pakistan ont frôlé les hostilités. C'est dans ce contexte de relations déjà très compliquées entre les deux puissances nucléaires que le gouvernement indien a pris une décision qui apparaît très risqué. New Delhi annonce la fin de l'autonomie pour la région du Cachemire, un territoire à majorité musulmane que les deux pays se disputent. Cette annonce signifie que le Cachemire sera désormais complètement rattaché à New Delhi, annonce dénoncée par Islamabad, mais aussi par les populations locales du Cachemire, comme nous l'explique notre correspondant Sébastien Farcy.
Quand le ministre de l'Intérieur a annoncé ce matin la fin du statut exceptionnel du Cachemire, deux députés du plus important parti de cette région, le PDP, ont explosé de rage et sont sortis de l'Assemblée après avoir déchiré la Constitution. Souhel Boukhari, porte-parole de cette formation du Cachemire, explique les raisons de leur colère.
1947, la région du Jammu et Cachemire a accepté de rejoindre l'Union indienne et de devenir le seul État à majorité musulmane du pays. Elle l'a fait après avoir reçu des garanties dictées par l'article 370 de la Constitution. Aujourd'hui, 70 ans après, vous nous dites qu'on peut effacer ces dispositions et que tout ira bien. Non, cela est inacceptable. Ce qui vient d'arriver est illégal et antidémocratique. Nous avons toujours dit que cet article 370 est le seul lien entre l'union de l'Inde et le Jammu et Cachemire. Et si vous coupez ce lien, l'Inde devient une force d'occupation.
Le gouvernement s'attend à une réaction violente de la part des groupes indépendantistes. Il a donc imposé un couvre-feu sur une partie du Cachemire, l'internet mobile est coupé, les dirigeants des partis régionaux assignés à résidence et environ 50 000 militaires ont été envoyés en renfort dans la région, s'ajoutant aux 700 000 présents de manière permanente.
Sébastien Farcy à New Delhi pour France Culture. La guerre commerciale est bel et bien relancée entre les États-Unis et la Chine. Vendredi, Donald Trump avait menacé d'imposer des droits de douane à tous les produits chinois importés sur le sol américain. Eh bien, ce soir, première mesure de représailles concrètes de la part des autorités chinoises. La Chine annonce la suspension de ses achats de produits agricoles américains. Des tensions qui font chuter la bourse ce soir à New York. Le Dow Jones perdait en milieu de soirée plus de 3%. En France, voilà qui ressemble fort à une sanction. On apprend ce soir que le procureur de la République de Nice pourrait être muté. En tout cas, le nom de Jean-Michel Prêtre a été proposé pour occuper un poste d'avocat général près de la cour d'appel de Lyon. Le procureur semble payer sa gestion de l'affaire Geneviève Leguet à Nice pendant le mouvement des Gilets jaunes. Le patron du parquet niçois est accusé d'avoir menti dans cette affaire pour ne pas contredire le chef de l'État. Le rappel des faits, Antoine Marette.
Le 23 mars dernier, une cinquantaine de gilets jaunes décident de braver l'interdiction de manifester place Garibaldi à Nice. La foule est calme, mais les policiers chargent, contrairement aux gendarmes. Geneviève Leguet, 73 ans, est blessée. Une enquête pour violence est ouverte. Elle vise un policier qui est accusé d'avoir fait chuter la septuagénaire, lui provoquant un traumatisme crânien. Deux jours après les faits, Emmanuel Macron suscite la polémique en affirmant « Quand on est fragile, qu'on peut se faire bousculer, on ne se rend pas dans des lieux qui sont définis comme interdits ». Il ajoute que Geneviève Leguet n'a pas été en contact avec les forces de l'ordre. Le chef de l'État dédouane les policiers et le procureur de Nice lui emboîte le pas affirmant que Geneviève Leguet n'a pas été touchée par les forces de sécurité. Au cours d'une audition devant sa hiérarchie, Jean-Michel Prêtre reconnaît avoir menti pour ne pas embarrasser Emmanuel Macron. Mais les reproches contre le procureur de Nice ne s'arrêtent pas là. L'avocat général évoque un possible conflit d'intérêts. Jean-Michel Prêtre a confié l'enquête à la Sûreté départementale alors que la chef de service avait elle-même participé à l'opération de maintien de l'ordre et qu'elle est très proche du commissaire chargé de cette opération. D'où la demande de dépaysement de l'enquête à Lyon.
En cette période estivale, le secteur de l'hôtellerie fonctionne à plein régime et les vacanciers profitent, mais ils ne se doutent pas forcément de ce qui se passe à l'intérieur. À Paris, les femmes de chambre de l'hôtel Ibis Batignolles sont en grève illimitée depuis le 17 juillet. Elles dénoncent des salaires misérables et de mauvaises conditions de travail dans ce gros établissement de 700 chambres. Reportage d'Hugo Charpentier.
Ça ne leur était jamais arrivé. Une distribution de fiches de salaire en main propre. Ça se passe directement sur le parvis de l'hôtel. Une quinzaine d'employés grévistes sont présentes. Gilets de la CGT par-dessus leurs boubous colorés.
Madame Diarra, Madame Diallo.
Après 15 jours de mobilisation, le salaire ne dépasse pas les 500 euros pour ces femmes d'origine africaine. Employées par un sous-traitant, l'entreprise de nettoyage STN, la responsable des ressources humaines est d'ailleurs présente et elle prévient.
Nous vous demandons aujourd'hui de prendre conscience des effets de ces jours de grève sur votre salaire. À trop vouloir gagner, on finit par tout perdre.
Pour Rachel Keke, une employée, ce discours n'est qu'une tentative d'intimidation.
C'est de la comédie, c'est nous mettre la pression, nous influencer, mais ça ne marchera pas. On ne va pas baisser les bras, on sait que c'est dur, mais il faut qu'on tienne bon.
C'est le cas visiblement, aussitôt la musique repart de plus belle. Les revendications sont sur toutes les bouches. Ces femmes réclament une baisse de la cadence de travail. Elles qui nettoient jusqu'à 45 chambres dans une journée, un rythme infernal qui use, explique Sylvie, une des femmes de ménage.
Moi, tout le temps quand je rentre à la maison, j'ai des douleurs, la poussière, faire le lit, enlever les draps, enlever les serviettes. Mais je suis abonnée au Doliprane parce qu'il y a des tanginites. Tout ça, c'est un travail physique.
Autre revendication, l'instauration d'une indemnité repas. La direction est d'accord pour 2 euros par jour.
Une proposition scandaleuse pour Sylvie.
On est traité comme des esclaves. On est revenu en 1800 parce que 2 euros proposés à ton salarié, c'est inadmissible, quoi.
Devant l'impasse des négociations, toutes ces femmes n'espèrent en fait qu'une seule chose, la fin de la sous-traitance et leur embauche par le groupe Accor, propriétaire des hôtels Ibis.
Le temps pour demain, des orages sur une bonne partie du pays, 21 degrés à Paris l'après-midi et 30 à Aix-en-Provence.